la veille de la Première Guerre mondiale, la migration algérienne est insérée dans le cycle des autres immigrations étrangères. Mais du fait de leur statut d'indigène, de leur origine rurale, des dures conditions de travail et de vie, ils vivent à la marge du prolétariat européen. En effet, les Algériens n'avaient pas de droits politiques. Ils subissaient alors le régime spécial de l'indigénat. À partir de 1881, le code de l'indigénat limite l'accès de l'administration aux Algériens musulmans. À côté de cette législation discriminante est instauré le décret Crémieux depuis 1872 qui entame la naturalisation des Juifs d'Algérie, décret qui sera aboli par Pétain sous le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces travailleurs algériens gardent de forts liens avec le pays, se regroupent par village ou par région, construisent des réseaux de solidarité et s'accrochent à leurs traditions culinaires, religieuses et culturelles. De là, l'importance des cafés, hôtels, restaurants comme cadre structurant de cette émigration. Dès le début du siècle, la spécificité de l'immigration algérienne est donc clairement établie et son étude ne peut se légitimer à l'analyse des flux, à la recherche des lieux d'origine et aux régions d'accueil.
Après la guerre, eh bien, il faut reconstruire la France. La France a été complètement détruite. Et en même temps, elle a été saignée à blanc. Donc non seulement tout a été détruit, on récupère l'Alsace et la Lorraine peut-être, mais on récupère un pays ravagé complètement. Et un pays où la population, la natalité est très faible. Puisque depuis les guerres de Napoléon, la politique de l'enfant unique. Donc il y a un déficit de population permanent. C'est pour ça que la France devient un pays d'immigration permanente, pour, ne serait-ce que pour assurer la reproduction, la survie, le fonctionnement de la machine générale économique. Après 1900, donc, on cherche qui on va faire venir. Ben, de plus en plus, la population de l'Allemagne, ben, c'est réglé. Du côté des populations habituelles du nord de l'Europe, il n'y en a pas. Donc on va faire venir des Polonais. Et puis, les Italiens, il y en a de moins en moins. Et il faut se retourner vers les Nord-Africains.
Oui.
Et en particulier les Algériens. Alors les Algériens, c'est en plus les patrons, ils les réclament. Parce qu'ils sont rodés, ils connaissent la production. En plus, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Ils sont taillables et corvéables comme on veut. Ils sont réglementés. Ils parlent le français. Ou en tout cas, ils ont des gars qui... pour eux, et ils ont donné des bons résultats en termes de production. Et comme finalement l'appareil de production est un appareil de production, le système Taylor, donc ils vont être tout à fait installés, ils vont revenir, on fait appel à eux, ils reviennent, et à partir de ce moment-là, donc, ils vont s'implanter toujours dans les mêmes régions. Donc on a cette géographie qui est en train de se prendre forme de l'immigration, Marseille n'étant simplement qu'un relais. Les gens viennent à Marseille, et puis de Marseille, ensuite, ils transitent vers c'est une zone de transit pour aller vers la région parisienne. Et dans la région parisienne, les conditions de l'après-guerre, disons en Algérie, l'Algérie a été saignée à blanc, puisqu'elle a servi pratiquement de vache à lait pour la France. Donc les récoltes, les chevaux, la nourriture, tout, etc., allaient vers la France. Donc on a un pays qui est d'une pauvreté extraordinaire. On leur donne bien un certain droit, c'est-à-dire les lois de Jonnard de 1919 leur donnent une part un petit peu plus importante dans la gestion des affaires municipales et coloniales. Mais cela dit, le statut reste toujours celui de l'indigène. Et donc, il y a un contraste de plus en plus fort entre, d'une part, les salaires, par exemple, qui sont versés aux travailleurs en France, ceux qu'il y a en Algérie, les conditions de travail, les conditions de vie, en même temps que les mentalités ont changé. Mmh. C'est-à-dire que les Algériens qui sont passés par les usines, qui ont eu une compagne française, etc., etc., eh bien, quand ils arrivent là-bas, c'est plus tout à fait la même chose, et donc il y a une certaine volonté de revenir dans ce pays, où il y a quand même aussi les libertés qu'il n'y a pas là-bas. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette matrice dont j'ai parlé précédemment, elle va s'enrichir avec d'autres Algériens. Des Tlemcéniens, puis des Algériens qui viennent d'autres régions, d'Oranie, ou qui viennent des Chaouis, qui reviennent du Constantinois, etc. Et peu à peu, cette matrice dont le creuset est kabyle va s'élargir et se regrouper avec la fabrication, avec d'autres donc, gens venus d'un peu partout, et la fabrication d'une identité, cette fois-ci qui n'est plus régionale, qui n'est plus locale, qui n'est plus confrérie, qui n'est plus les solidarités traditionnelles, etc. Mais cette fois-ci, on va fabriquer une identité qui est algérienne.
Est-ce qu'elle est homogène ?
Alors, elle n'est pas homogène. Mais il va y avoir deux facteurs qui vont lui donner une cohésion. C'est que premièrement, tous ces travailleurs, enfin une partie de ces travailleurs, va être recrutée par le Parti communiste. Et que d'autre part, recrutée, c'est ainsi que l'étoile nord-africaine, il y a l'étoile nord-africaine, au départ, elle est dans les structures coloniales, puisqu'on sait que le Parti communiste a été créé en 1920. Et bien sûr, les Algériens sont recrutés dans le Parti communiste. En même temps, ils adhèrent à la CGT, la CGTU de l'époque, puisqu'il y a eu la scission syndicale. Mmh. Donc, quand les Indochinois repartent, qui contrôlaient un peu les sections coloniales qu'il y avait à l'intérieur du PC, sont les Algériens qui l'infiltrent. Et ces Algériens vont suivre des cours de formation. Ils vont devenir des communistes. Et donc, c'est dans cette période-là, dans les années 24, en plus, il y a la guerre, après 25, il va y avoir la guerre du RIF, donc une solidarité, des manifestations, etc. Il y a des mouvements sociaux très importants qui se développent, donc le Parti communiste est en pointe. Les Algériens, cette fois-ci, sont inscrits dans la lutte des classes en France. Et à partir du moment où il y a les municipalités qui se constituent dans la région parisienne, ce que va devenir la ceinture rouge, eh bien, les Algériens vont trouver aussi des conditions de vie et des conditions de logement, c'est-à-dire une insertion beaucoup plus grande dans la vie sociale du pays. Et ils vont acheter des maisons, faire un peu ce que les Portugais ont fait récemment, c'est-à-dire des vieilles baraques, ils vont les reconstruire. Comme ils travaillent sur les chantiers, etc., ils se mettent à tous, ils construisent des baraques, ils achètent des hôtels, des restaurants. Et nous avons un maillage de l'immigration, de cette immigration algérienne, qui va se faire de plus en plus fort, en même temps qu'il y a une certaine conscience. Parce que à l'intérieur de l'international, comme à l'intérieur des sections coloniales, va se développer des analyses qu'on ne pouvait pas faire en Algérie sur l'indigénat, sur la question agraire, sur le système colonial, sur l'impérialisme, etc. Et il va y avoir donc finalement la formation de cadres qui sont cette fois-ci des cadres révolutionnaires, des cadres qui vont commencer à penser un problème de la nationalité, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Et cette analyse est faite par des Algériens eux-mêmes ?
Alors, elle est faite par des Algériens. Elle est faite d'abord dans les structures coloniales, puis ensuite dans l'étoile nord-africaine. Et c'est là où il y a un personnage qui apparaît dans l'étoile nord-africaine, qui est Messali Hadj, qui va devenir secrétaire général de cette étoile en 1926, qui est communiste. Il adhère au Parti communiste il est sympathisant du Parti communiste dès qu'il vient en France en 1900, il est de Tlemcen, il vient en France en 1924. Tout de suite, il est attiré par le Parti communiste, la CGTU. Il travaille comme les autres, c'est-à-dire des boulots dans les entreprises, dans les usines, etc., etc. Et en 1926, c'est-à-dire il a 28 ans, quand il devient secrétaire général de l'étoile nord-africaine. نشرب غير فيلاتاي كاس المحنة عاد غالي يما ما كانش الراي عالبنة تخسرت قاع مالي بالفاكونس راني جاي والله فرق ما بقالي Secrétaire général, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'occupait, d'une part, de la propagande, il s'occupait du travail syndical, et il s'occupait de l'organisation. Et alors Messali va implanter, lui qui est un berbère, enfin qui est un Kouloughli, mais qui est dans une région qui est quand même une région berbère, la région de Tlemcen, c'est les Zénates, où on comprend le kabyle. On a à peu près des langages avec les Bénis Nassen, avec les gens du Rif et tout, on a des correspondances. Et alors, Messali, lui, qu'est-ce qu'il va faire, à la différence des autres? C'est qu'il va commencer à recruter dans la matrice. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire le tour des usines, et cette fois-ci, par sa médiation, les Kabyles vont rejoindre l'étoile nord-africaine. Ça, c'est important. C'est la Kabylie tout entière, oui. Disons, tout ce qu'il y a dont j'ai parlé, qui va venir. C'est-à-dire que quand le mouvement se construit, eh bien, nous avons bien sûr Messali qui est finalement de la région de Tlemcen, qui est donc, mais qui comprend le berbère, on a eu des preuves dans les rapports de police. Et par lui, en définitive, il va combiner le modèle communiste, il va construire l'étoile nord-africaine sur le modèle communiste, mais qui correspondait parfaitement bien à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ces structures qui existaient avec les comités de village, avec etc., etc., les Algériens vont rentrer dans la CGTU. Il n'y a pas de rupture au point de vue... il n'y a pas de rupture idéologique, de pensée, de compréhension entre le mode de fonctionnement du Parti communiste et ce qu'étaient un petit peu les confréries. Parce que là, il y a une hiérarchie, il y a des secrétaires, il y a des responsables, on prend les cotisations, on adapte en quelque sorte oui. la matrice algérienne, mais à dominante kabyle, mais elle n'est plus que kabyle, mais elle est à dominante quand même par la population. Et on a, Messali, fait rentrer les kabyles dans l'étoile nord-africaine. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que la liaison qui se fait entre les kabyles et d'autre part les autres habitants de l'Algérie, eh bien, c'est profondément différent de ce qu'il y a en Algérie, puisqu'en Algérie, finalement, il n'y a pas de structure, d'institution qui permette aux kabyles et aux Algériens, etc. Il y a au contraire la volonté de couper la Kabylie du reste. D'essayer, par exemple, de faire des écoles en Kabylie, mais pas ailleurs, d'implanter le christianisme en Kabylie, mais pas ailleurs, et de dresser en permanence les Arabes contre les Kabyles.
Là, dans quelle intention de
dans la division. Parce qu'on pense, d'ailleurs, il y a toute une série de théories qui écrivent que les Kabyles, finalement, c'était des gens de l'Europe, ils ont les yeux bleus, ils ont les trucs, etc. Ceux-là, on peut les assimiler. Les autres, on ne peut pas les assimiler. Les autres, ce sont des Arabes. Et on a inventé, en quelque sorte, une kabylophilie, si on peut dire. C'est-à-dire, on les a chargés alors qu'on les a massacrés précédemment. Mais on dit, avec ces gens-là, on peut s'entendre. Pourquoi ? Parce qu'on les a expérimentés dans la conquête de la Tunisie. On les a expérimentés sur les champs de bataille où ils étaient dans les armées. Donc on a dit, ceux-là, ils sont bons. C'est de la bonne chair à canon. En plus, c'est des bons travailleurs. Ils sont très dociles. On arrive à en faire ce qu'on veut. En plus, ils viennent de la montagne. Donc ils n'ont pas de plaine. Ils n'ont pas de problème agraire, de revendication terrestre et tout et tout. Donc c'est des prolos. Ils ont joué un rôle très important dans la conquête du Maroc. C'est les régiments, etc. Ils ont aidé à la mise en place. Et puis, ils sont impeccables pour la guerre. Ils sont impeccables pour le travail en usine. Donc, on a inventé, en quelque sorte, on a accentué. C'est-à-dire que le contraste entre ce qu'est en train de faire Messali dans l'étoile nord-africaine a créé une identité algérienne. On est passé de l'identité kabyle, en quelque sorte, avec des formes originales, à cette fois-ci une identité algérienne. Et ça va devenir une identité, finalement, nationale. Et ça commence en 1927. Donc là, on arrive, ça, dans cette période de l'entre-deux-guerres, il y a un événement très important. C'est le discours que va prononcer Messali à Bruxelles, au congrès anti-impérialiste de Bruxelles, où cette fois-ci, carrément, il se démarque du Parti communiste. Pose le problème de l'indépendance de l'Algérie, mais dans la perspective, il reprend donc tout ce qu'a été la doctrine communiste, puisqu'il était lui-même communiste, il était formé par l'école de cadre communiste, il avait parfaitement assimilé tout ce qu'était le programme marxiste, et il va donc expliquer, on va inventer une Algérie dans une l'étoile nord-africaine, c'est-à-dire dans un ensemble qui est l'Afrique du Nord, on ne parle pas de Maghreb, Afrique du Nord, et on va construire la nation de façon originale, parce que la nation, il reprend la théorie marxiste, la nation, c'est une invention. De la même façon que la France a construit finalement sa nationalité par une assemblée constituante en 89, alors qu'avant c'était des provinces, des trucs et tout, eh bien il dit, nous en Algérie, on va faire la même chose. On va reprendre le modèle qui a été celui de la formation de la France pour former l'Algérie. Former l'Algérie, mais cette fois-ci dans le contexte de la Troisième Internationale. Et former l'Algérie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on considère que les habitants de l'Algérie sont tous aptes à participer à la construction de la nation, donc les Européens, les musulmans, les Juifs, les Espagnols, etc., etc., à égalité, parce que ce qu'il faut détruire, c'est le système colonial.
Là, on ne parle pas d'indépendance encore. On parle de la création
de l'indépendance et de la création de la nation. Alors, donc, une fois qu'on aura créé cette nation par tous les habitants, etc., bien entendu, cette nation, il faut qu'elle se débarrasse, comme les Français l'ont fait, de tout ce qui était l'ancien régime. Donc, tout ce qu'a été le régime colonial, l'expropriation des terres, le truc, etc., on va tout nationaliser. Nationalisation des banques, des entreprises, du commerce extérieur, de trucs, etc., tout ça. On nationalise, mais sans rupture forcément avec la France. Simplement, on construit une Algérie qui décide de ses propres institutions. Et maintenant, c'est aux Algériens eux-mêmes, donc c'est à l'Assemblée, au gouvernement, qui sera issu de cette Assemblée constituante, qui déterminera les liens qu'elle entend avoir avec la France. Et il dit, nous, on n'est pas pour la rupture. Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas la culture, on n'a pas ci, on n'a pas là. Cela dit, ce qu'on veut être, c'est finalement supprimer le régime colonial. Mais pour pouvoir supprimer le régime colonial et s'associer avec une France, il faut aussi que la France, elle supprime le régime capitaliste. Donc, la liaison va se faire, c'est une même dynamique. On travaille avec le mouvement ouvrier français dans une perspective qui est une perspective double. Un combat qui est commun, c'est contre le capitalisme en France, contre l'impérialisme et le colonialisme dans les colonies. Et donc voilà l'originalité, en quelque sorte, de ce mouvement national qui est l'étoile nord-africaine. Il n'y a pas d'autres exemples de partis, de populations qui a construit son mouvement national dans l'immigration et en liaison avec la classe ouvrière du pays dans lequel elle était installée. Donc il y a, dans cette population d'Algériens, toujours à dominante kabyle, mais les kabyles sont forment toute l'armature, tout le cadre. C'est-à-dire, là aussi, il y a et l'étoile nord-africaine. Or, c'est-à-dire que Messali pose le problème d'une Afrique du Nord dont le creuset est berbère. Donc, il a imprimé, en quelque sorte, des caractéristiques dans ce mouvement national qui était finalement un mouvement organisé sur le modèle communiste, donc avec des règles qui étaient des règles. Et d'un autre côté aussi, il a combiné avec ce qu'était l'héritage culturel algérien, c'est-à-dire aussi le modèle confrérique, c'est-à-dire que les solidarités qui existaient, etc., etc., qui existait également d'ailleurs dans le Parti communiste. C'est pour ça qu'il y a eu la greffe du communisme sur le modèle confrérique a été, la combinaison qui a été faite est extrêmement riche au point de vue culturel.
Oui. C'est-à-dire de voir. C'est une synthèse entre les deux finalement.
C'est les synthèses qui ont été faites à ce moment-là, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles ont généré en quelque sorte au point de vue des mentalités, de la construction finalement, de l'originalité, la greffe originale de l'histoire française. Elle se retrouve dans cette combinaison qui est un apport qu'il faudra bien sûr préserver, vivifier, et qui est en quelque sorte des éléments de la personnalité des populations algériennes en France, qui sont un enrichissement disons, pour l'ensemble de cette France du XXIe siècle qu'il faudra bien construire, mais sans épurer, sans éradiquer finalement cet héritage socioculturel de très grande qualité.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Alors donc, ça, c'est l'étoile nord-africaine. Et bien entendu, contre l'étoile nord-africaine, en particulier à partir de 1935, va se dresser l'extrême droite, la droite et le Parti communiste. Parce qu'à partir de 1935, Hitler a pris le pouvoir en Allemagne et de nouveau, c'est la préparation de la guerre. Donc, cette fois-ci, la guerre de revanche, sans les Algériens, on ne peut rien faire. Et les Algériens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on a déjà donné, on a eu pas mal de morts pendant la guerre de 14, on recommence pas la boucherie, parce que c'est nous qui sommes toujours en première ligne. Donc, macache la guerre, à nouveau, servir de chair à canon, sans nous. Nous, on descend de l'autobus, faites la guerre que vous voulez. Donc, à partir de ce moment-là, quand il y a un accord qui est signé avec la Russie, notamment, le Parti communiste, lui, il commence à taper sur l'étoile nord-africaine. Et ça va se vérifier pendant la guerre d'Espagne. Mmh. Pendant la guerre d'Espagne, vous savez comment que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a, il y a les élections, un gouvernement de Front Populaire qui arrive au début de 1936 en Espagne. Messali envoie immédiatement, qui est le chef de l'étoile, envoie un télégramme en disant « Bravo, le Frente Popular », etc. Et nous sommes prêts immédiatement à envoyer nos soldats et à envoyer de l'argent combattre à vos côtés pour la défense du Front Populaire en Espagne. Tout de suite. Il y a une condition. Puisque Franco, il vient de lever des tertiaux dans le RIF, alors nous, on a une combine, on a un truc très très bien. C'est-à-dire que si vous donnez l'indépendance au RIF, ben Franco, il n'aura plus de troupes. Et à ce moment-là, on vient et on combat avec vous. Contre le fascisme, contre Hitler, etc. etc. Mais d'abord, vous faites ça. Et en France, se forme le gouvernement de Front Populaire, à laquelle adhère également l'étoile nord-africaine. Mais quand il y a cette question de la guerre d'Espagne, le Parti communiste dit « on va lever des brigades internationales, des trucs, etc. » Mais Sali dit « Tintin, nous, il y a un critère qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il donne ou il ne donne pas l'indépendance aux RIF ?» Parce qu'on va se retrouver dans les brigades internationales à taper sur les RIF. Hein. Alors, ce n'est pas question. Donc, c'est encore une guerre colonialiste. On sert encore de chair à canon. Donc, à partir du moment où le gouvernement de Madrid dit qu'il ne donne pas l'indépendance du RIF, parce qu'il avait peur que ça allait se généraliser dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, qu'il y aurait le Maroc qui allait se soulever et tout. Donc Messali dit, allez vous faire voir. Alors, ben, qu'est-ce qu'il fait Messali? Ben, immédiatement, il recrée une nouvelle organisation, le Parti du Peuple Algérien, PPA, 1937.
Et le 11 mars. Pourquoi il a changé, je ne comprends pas.
Ben, parce qu'il était dissous, l'étoile était dissoute, donc il est obligé de faire autre chose. Mais comme entre-temps, le mouvement nationaliste s'était développé au Maroc et s'était développé en Tunisie, donc il dit maintenant, on va construire le Parti du Peuple Algérien. Jusque-là, c'était l'étoile nord-africaine. Maintenant, il dit, puisqu'il y a du nationalisme qui a été créé, maintenant, on va s'occuper de nos affaires, l'Algérie. Mais toujours dans la perspective, quand même, d'une Afrique du Nord indépendante. Donc il va, cette fois-ci, il va en Algérie. Il va en Algérie, en deux temps trois mouvements, il se retrouve face, finalement, au Congrès musulman. Le Congrès musulman, qui était tous ceux qui étaient finalement le Parti communiste, les oulémas, les religieux, donc les réformistes, toute cette équipe-là, qui étaient eux pour le plan violette. Le plan violette, c'était on donne un petit peu plus de droits aux Algériens, mais on ne change pas le statut des autres. Et surtout, on ne touche pas aux structures de la colonisation. Donc on vous donne un petit peu plus de pouvoir pour venir gérer les affaires de la colonisation. Et M. Salé dit, Niette, Macas, voilà. Allez vous faire voir, Montana. Bon, donc, évidemment, il affronte tout le monde, et le congrès musulman s'effondre. Aux dernières élections, bah, c'est Messali qui devient, qui construit en moins de 2 ans, il construit un mouvement national qui est reconnu comme le seul mouvement nationaliste dans l'ensemble de l'Algérie. Et bien entendu, prison. Donc on l'arrête en 37, on le libère en 39, 10 jours après, on le remet en prison. C'est la guerre de 39, donc il se retrouve en dôle. Voilà pour cette période, disons, dans lequel on peut résumer en quelques propositions, en quelque sorte, quelques thèses très fortes, c'est que l'immigration algérienne, c'est une immigration spécifique. Sa spécificité, elle tient au fait qu'elle vient de province d'Algérie française. Donc déjà, le mot immigration est déjà un scandale. Puisque les Bretons, quand ils viennent en France ou quand ils se déplacent en Alsace, sont simplement des déplacements de population et non pas des migrations. Là, nous avons donc une réglementation qui a été faite, qui a été maintenue du côté français et du côté algérien. Mais c'est quand même la France qui a les billes en main, en quelque sorte, qui a le pouvoir, qui a les finances, qui a les banques, qui a l'armée, qui a tout ce qu'on veut, etc. Donc nous avons eu volontairement, du côté de la France, la volonté d'intégrer, d'assimiler l'Algérie sans les Algériens musulmans pour ses propres besoins. Pour elle, l'Algérie, c'est, donc on dit, ouais, c'est la faute des colons, des trucs et tout, ouais, moi je veux bien, mais enfin, c'est quand même l'Algérie qui a été entièrement assimilée avec un objectif, maintenir la puissance de la France, grande puissance, et servir aussi de main-d'œuvre, de pomper les richesses de l'Algérie, et de finalement d'avoir aussi une population qui n'existait pas à l'époque. Il ne faut pas oublier que la France est le premier pays du monde en immigration dans la période de l'entre-deux-guerres, premier pays au monde avant les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a, y a besoin d'une population, parce que pour maintenir, ne serait-ce que sur le plan militaire, la parité avec l'Allemagne et faire fonctionner les usines, puisque la population avait subi une saignée à blanc pendant la guerre. Alors voilà où on se trouve en 1939. Donc on a quelque chose de très original dans cette histoire de l'immigration. Elle est profondément liée à l'histoire de l'Algérie, bien entendu. Et en même temps, elle a servi de moteur. Mais en même temps, elle a une histoire autonome, une histoire originale en tant que population qui a creusé elle-même sa propre identité tout en s'intégrant dans le mouvement ouvrier français, c'est-à-dire qu'elle a fabriqué une France avec cette greffe en quelque sorte algérienne qui lui a donné sa qualité et qui a en même temps permis de moderniser l'appareil de production et de construire la France physiquement. C'est-à-dire dans les usines, dans les chantiers, dans les trucs, etc. À un moment, cette main-d'œuvre, elle devient indispensable pour pouvoir que la France puisse simplement tourner. Donc nous, voilà les points forts en définitive. Et le dernier point, c'est bien sûr cette histoire extrêmement passionnante du mouvement national, dans la mesure où c'est pas simplement, ce sont des individus qui viennent de là-bas, qui sont formés eux-mêmes. C'est un mouvement prolétarien. Donc c'est un mouvement qui va imprimer aussi des qualités sur le syndicalisme, sur la formation dans les usines, sur la formation professionnelle, etc. Et qui se veut en quelque sorte l'avant-garde de la population, parce qu'en même temps elle est porteuse de toutes les valeurs de la Révolution française et elle est porteuse de toutes ces valeurs de démocratie. Parce que le modèle, ce n'est pas, c'est chasser l'impérialisme, mais pas les habitants qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que c'est la reproduction, en quelque sorte, de la Révolution française de 89, avec tout ce qu'il peut y avoir de valorisant pour tous les habitants d'Algérie. La population juive, elle est considérée à égalité avec les autres. Ils font la différence fondamentale entre le système colonial et les Européens. Ils disent, bien sûr, il y a des salauds, il y a des trucs, etc., mais partout ailleurs. Il y a aussi des bourgeois qui sont des salopards, des bourgeois musulmans. Donc on les met sur le même plan. C'est-à-dire on fait une analyse de classe et non pas une analyse ethnique ou religieuse. Ça, c'est extrêmement important que d'avoir fondé un mouvement national sur les principes, finalement, de la Révolution française et les principes de la vie française. Donc c'est une tranche de l'histoire de l'histoire de France, et c'est en même temps finalement ce qui a été la locomotive dans la progression de la conscience nationale algérienne. La conscience nationale algérienne est arrivée, elle s'est greffée par le PPA avec ses valeurs. Elle s'est greffée sur des populations qui étaient rurales pour les 4/5e, qui étaient marquées encore par l'oppression. Et ce sont ces gens-là qui sont venus pour implanter le mouvement national du PPA qui ont finalement dynamisé la population, qui ont inscrit dans les valeurs, dans le creuset algérien traditionnel, qui ont, sans l'éradiquer, ils ont introduit des valeurs finalement universelles.
Oui.
En ce sens, disons, la progression et même les idées de la démocratie ont fonctionné en Algérie à partir de l'expérience du PPA. Et le PPA lui-même, c'est une greffe qui s'est installée finalement dans l'ensemble du pays. C'est-à-dire qu'y compris aujourd'hui, quand on parle de l'islam, en Algérie, etc., il y a le truc des GIA, des machins chouettes, etc., ça c'est le résultat de cette alliance qu'il y a eu entre le FLN, l'État de Boumediene, l'État de Chadli, et d'autre part, les oulamas. C'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion de l'État. Et l'État, pour pouvoir le maintenir en place quand la population ne peut pas résoudre les problèmes sociaux, eh bien, à ce moment-là, on fabrique des fous furieux, des islamistes barbares. Ce qui n'était pas le cas avec les confréries. Les confréries n'ont jamais fabriqué des tueurs. Jamais. C'est pour ça que, par exemple, quand le FLN a commencé à massacrer ses camarades, des militants, etc., jamais Messali n'a dit qu'il avait les moyens d'aller assassiner Ferhat Abbas ou les autres du FLN. Il n'a jamais fait. Parce que ce n'est pas comme ça, tu vois. C'est pas en adoptant des règles barbares que tu deviens civilisé. Quand les autres sont barbares, ben, tu luttes avec des moyens, mais tu ne dévies pas. Tu restes fidèle, finalement, à un certain nombre de valeurs. Surtout que l'islam maghrébin n'est pas un islam étatique. Ça a toujours été un islam confrérique. Et lui, Messali, quand il implante le PPA, ça aussi, c'est vachement génial. Il arrive à implanter le PPA en utilisant à la fois le modèle communiste qui combine avec le modèle finalement des traditions profondes ancrées dans le Sahara, dans les trucs, ces modèles d'histoire confrérie. Et il arrive à combattre et à récupérer les éléments dans la jeunesse qui avait été formée dans le Constantinois par les oulamas. Il arrive à les récupérer, à les retourner et à les réintégrer finalement dans le PPA. C'est-à-dire qu'il construisait. Il y a vraiment un processus de fabrication de la nation algérienne de ces années 1900, quand il arrive, de mes années 36, jusqu'en 1945, disons, qui sont d'une originalité et d'une richesse culturelle qui est assez importante, fascinante même. C'est une recherche, à mon avis, il y a des procédés, il y a des méthodologies, il y a une combinaison, finalement, des formes politiques, des formes culturelles, des formes religieuses, etc., intégrant, finalement, et se projetant vers l'avenir, et ouvrant, finalement, tenant un discours qui est un discours, finalement, positif, et non pas un discours rétrograde, ou un discours sanglant. Donc c'est un discours, finalement, qui intègre la civilisation musulmane dans ce qu'elle a apporté, dans ses valeurs les plus profondes, elle-même enrichie avec les cultures de Perse, les cultures d'Espagne, etc., comme une contribution, en quelque sorte, à la civilisation de l'humanité.
تسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
قبل منك وقبل منك